Nous l'avions dit lors de la conférence inaugurale, on a pensé ces rencontres Michel Foucault avec une conférence d'ouverture qui interrogeait les passions. Et puis nous allons terminer sur la raison, ce qui finalement est quelque chose de l'ordre qui nous va bien, on va dire les choses comme ça. Sauf que effectivement, Martin Hirsch, que nous accueillons aujourd'hui, a posé la question de la raison ou de la déraison dans nos capacités à nous engager. Et donc c'est ça qu'il va essayer de démontrer aujourd'hui. Alors comme c'est pas moi que vous voulez entendre, je voulais juste dire et vous présenter rapidement Martin Hirsch, mais je me doute que chacun ici le connaît, mais d'abord dire que l'on est très fiers qu'il ait accepté rapidement et avec enthousiasme de venir clore aujourd'hui les rencontres Michel Foucault. Et ça nous honore aujourd'hui de le recevoir. Martin Hirsch a poursuivi toute sa carrière un double engagement. Alors je dis a poursuivi comme si c'était terminé. Non, poursuit un double engagement. Un engagement comme homme d'État, au Conseil d'État, à la PHP, on lui doit le RSA particulièrement, on lui doit le service civique ou combien d'autres choses. Je ne vais pas résumer ici les actions qu'il a menées dans des champs différents du service public. Mais il y a aussi l'engagement associatif, Emmaüs France évidemment, et l'engagement qu'il poursuit aujourd'hui, au titre de l'Institut de l'engagement, qui poursuit cette carrière qui est la sienne, et finalement une carrière sur deux pieds. Et c'est comme ça que nous avions engagé ensemble nos questionnements sur ce thème qui était le nôtre, sur les multiples manières de s'engager et les multiples leviers à disposition ou pas, d'ailleurs, de chacun d'entre nous à des moments de la vie et des manières de faire pour être avec les autres. En tous les cas, c'est la manière qu'il a eue de mener cette carrière qu'il poursuit. Alors, je vous remercie. Comme une guest star, nous allons accueillir Martin Hirsch.
C'est très impressionnant d'être accueilli comme une guest star. Un jour, peut-être qu'on... Bon. Non, j'étais très impressionné sur cette. Merci beaucoup d'être là, de prendre votre vendredi soir. Merci pour l'invitation. Effectivement, une fois que j'ai lu le mail, je crois que j'ai pas hésité très longtemps. Je trouvais que, d'abord, j'aime bien les événements organisés par les universités, et j'aime bien Michel Foucault, et j'aime bien Poitiers, et je me présente pas aux élections, donc je peux le dire sans arrière-pensée. Mais à propos d'élections, je suis très content de retrouver la maire de Poitiers, qui, je sais pas si c'est public, mais qui a été en stage déjà toute jeune à l'Institut de l'engagement, et qui a contribué au premier pas de l'Institut de l'engagement. Normalement, si je me trompe pas, dans cette salle, personne ne doit savoir ce qu'est l'Institut de l'engagement. Est-ce que quelqu'un sait ? Il y a une lauréate. Ah, bon, elle nous aidera tout à l'heure. Voilà, une personne. Et donc, un objectif, c'est qu'à la fin de cette conférence, vous sachiez à peu près ce que c'est. Raison et des raisons de l'engagement. Effectivement, comme c'était Michel Foucault, comme c'était l'histoire de la folie, comme c'était l'engagement, je me suis dit que... Et comme c'était par ailleurs le cœur du plus récent livre que j'ai écrit, qui s'appelle Les solastalgiques, là aussi on va faire un petit sondage. Le mot solastalgie, qui le connaît ? Voilà. Vous êtes très minoritaire. Donc au moins vous allez peut-être vous ennuyer, mais apprendre des choses ce soir. Hein, Institut de l'engagement, solastalgie. Ce livre est un roman, mais un roman sur les questions de l'engagement et de savoir ce que signifie l'engagement dans les temps très particuliers dans lesquels on est. Quand je dis raison et des raisons, j'ai continué à faire des quiz ou un test. Si je vous cite, la question qui se pose, c'est dans le monde dans lequel on vit, qui est quand même assez perturbé, dans lequel on vit, je pense qu'on en a conscience, une période peut-être unique de l'histoire de l'humanité. On vit une période historique très particulière par rapport, si on se met juste à l'échelle des décennies, très particulière dans la mesure où, en tout cas pour ma génération, et je suis de la même génération que certains d'entre vous, qui est une génération qui a grandi et vécu dans la foulée de l'après-guerre, qui était une période dans laquelle on avait l'impression qu'on assistait à des progrès irréversibles. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Que la démocratie, une fois qu'elle était entrée, elle restait ancrée. Que la protection sociale, une fois qu'elle était inventée, elle pouvait éventuellement s'étendre, mais elle ne pouvait pas s'effacer. Que l'Europe, construction pacifique entre tous les pays, invention extraordinaire, qui permettait d'abolir les frontières, non pas à coup de guerre ou à coup de conquête, mais à coup de mutualisation de ses ressources et de ses peuples, était quelque chose qui donnerait l'exemple au reste du monde. Que la notion de grand conflit mondial ou continental était quelque chose dont on avait payé le prix suffisamment fort pour avoir envie de s'en dispenser. On apprenait en classe l'échec de la SDN. Et on disait, la SDN, conçue après le traité de Versailles, la SDN, voilà toutes les raisons pour lesquelles elle a été inefficace et n'a pas évité la Deuxième Guerre mondiale, mais on a compris et on a fait l'ONU. On vit à une époque où on se dit que ce qu'on apprenait sur la SDN ressemble un peu à ce qu'on pourrait se dire sur la difficulté qu'a l'ONU de se faire respecter en Ukraine, en Palestine, et au Soudan, et dans les quatre coins du monde. On pensait que les progrès médicaux faisaient que l'espérance de vie continuerait à augmenter. Aujourd'hui, dans le pays le plus riche du monde, dans la première puissance mondiale, l'espérance de vie régresse. L'espérance de vie régresse. Alors, elle a régressé dans beaucoup de pays pendant le Covid, mais elle régresse régulièrement aux États-Unis, y compris par des effets iatrogènes du système de santé, c'est-à-dire que l'une des plus grandes causes de mortalité aujourd'hui, c'est l'industrie pharmaceutique qui l'a fournie à travers fentanyl et autres médicaments qui sont à l'origine de 40 000 morts précoces par an. Les valeurs démocratiques auxquelles on est beaucoup d'entre nous attachés, on s'aperçoit qu'elles sont complètement réversibles. Donc, à l'échelle de quelques décennies, il se passe quelque chose de particulier. Mais à l'échelle de quelques millénaires ou millionnaires, au sens du temps, il se passe quelque chose de totalement inédit, puisqu'on est à une période, comme on n'en a jamais connu, et j'y reviendrai, où le risque d'impossibilité pour l'humanité ou pour une grande partie de l'humanité d'habiter la Terre est quelque chose qui peut se produire et qui peut se produire à une échelle de temps extrêmement, extrêmement courte. Et dans ce contexte-là, on peut se poser la question de où est la raison ou où est la déraison. Et alors, je vais faire mon petit quiz. Si je prends deux personnages, un homme bien établi, qui peut incarner ce que la société recherche, la réussite entrepreneuriale, le gain d'une action politique dans un pays démocratique, être à la tête d'institutions, mettons dans la première puissance mondiale, Et puis de l'autre, une jeune fille dont on se demande si elle n'est pas folle, qui, quand elle traverse l'Atlantique, prend un bateau parce qu'elle ne veut pas prendre l'avion, qui est capable d'aller tous les vendredis crier devant le Parlement de son pays. Donc je vous mettais Donald Trump et Greta Thunberg, et vous vous dites, où est la folie, où est la raison ? Voilà. Il y a des gens qui pensent que la déraison est effectivement du côté d'une jeune fille qui croit qu'en vociférant ou en faisant des vidéos sur les réseaux sociaux, en étant alarmiste, incarnerait la déraison. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que la raison est du côté bien établi. Et donc cette dialectique, je trouve, est intéressante. L'un et l'autre ont d'ailleurs une forme d'engagement, ce qui montre que si on réfléchit sur ce qu'est l'engagement, l'engagement est multiforme. Pour ce soir, on va prendre comme idée de l'engagement ce qui fait qu'on a envie de consacrer une partie de soi-même à une cause qui vous dépasse. Pas pour son intérêt personnel. Donc ce qui fait que l'on peut donner du temps pour soulager le malheur des pauvres, pour éviter l'isolement des personnes qui le sont, pour protéger sa forêt, son quartier, ses valeurs, etc., etc. Et donc, qui fait que, un, on donne un peu de soi-même, et deux, on se met aussi un peu en risque. Parce que s'engager pour une cause, c'est donc considérer qu'il y a une insatisfaction dans la manière dont les causes sont défendues si on ne s'engageait pas. Et donc c'est d'avoir envie de peser sur le cours naturel des choses, en considérant que le cours naturel des choses ne va pas toujours dans le bon sens. Et donc c'est se mettre en risque, puisque c'est se rebeller contre quelque chose, c'est agir, y compris... Voilà, si vous faites du soutien scolaire, il y a comme sous-entendu qu'il y a besoin de soutien scolaire, et donc ça peut être considéré comme un engagement où vous pouvez vous soumettre au risque d'être considéré comme critique d'un système qu'on n'a pas envie de critiquer, etc. etc. Mais donc, cet engagement qui peut prendre des formes politiques, des formes associatives, des formes collectives, très rarement des formes individuelles, un engagement qui peut vous faire donner du temps, donner de l'argent, parfois les deux, donner vos compétences, etc. Et quelque chose qui a été un moteur des évolutions sociales. Et quand vous regardez l'histoire de l'humanité, elle est faite de personnes qui se sont engagées et qui, par leur engagement, ont mis fin à l'apartheid ici, à la ségrégation ailleurs, à la peine de mort quelque part, au saccage d'un site dans un autre endroit, et donc qui, par leur engagement, par leur prise de risque, ont permis d'aller à l'encontre du cours des choses et de créer des espoirs, ou des progrès, ou des institutions nouvelles. Si je prends juste l'engagement européen, par exemple, il se trouve que ça m'a touché de près, mais dans la construction de l'Europe, de l'après-guerre, il y a des personnes autour de Jean Monnet qui ont été marquées au fer rouge par l'Holocauste, qui ont perdu une grande partie de leur famille pendant la guerre et dont le premier réflexe après-guerre est non pas préparons la vengeance, mais unissons les peuples et allons tendre la main à ceux qui ont provoqué l'impensable et l'intolérable. Et ça aussi, c'est une prise de risque. Il se trouve que mon grand-père était une de ces personnes-là. Et je me souviens, quand il avait 90 ans, je lui ai dit, mais ça ne te faisait pas quelque chose quand même ? Il m'a dit, à chaque fois que je serrais la main, je me disais, ils étaient peut-être là où il avait perdu ses parents, sa sœur, ses neveux, ses nièces, ses beaux-parents, 8 membres de sa famille. Il me disait, ça me faisait quelque chose, mais il fallait le faire. Ce qu'il n'avait pas dit pendant les 40 ans qui avaient précédé. L'engagement, parfois, peut ne pas être héroïque du tout. Il y a des gens qui naissent engagés, mais on peut devenir engagé sans être né engagé. Moi, je ne suis pas né engagé. Mon premier engagement n'est absolument pas altruiste. Je me suis engagé pour de très mauvaises raisons, que je vais vous dire ici, à condition que vous ne le répétiez pas. Je me suis engagé par amour, mais non pas du tout par amour pour une cause ou pour rien du tout. Parce que j'étais amoureux d'une fille qui ne m'aimait pas. Et qui passait ses week-ends à s'occuper de jeunes trisomiques. Et devant mes échecs pour la conquérir, je me suis dit, peut-être le seul moyen, c'est de lui dire que j'adorerais passer un week-end avec elle à m'occuper des jeunes handicapés. Et elle m'a dit, pas un week-end, ça sera 15 jours. Et donc j'ai passé 15 jours à essayer de la séduire en vain. Mais en revanche, ça m'a changé pour toujours. Donc je lui suis très reconnaissante. C'était pour voir si vous suiviez, je vois que vous suivez et que vous êtes impitoyable. Et donc je vais essayer de faire tous les accords, etc. Aussi impitoyable qu'elle, d'ailleurs. Mais bref. Je me suis engagé pour de très mauvaises pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'altruisme, la générosité. Je me suis engagé par un intérêt qui n'a pas été satisfait. Je le dis parce que, mon propos sera décousu, mais on construira tout après. Je le dis parce que, quand on a mis en place le service civique, qui consiste à favoriser l'engagement de jeunes entre 16 et 25 ans pour une cause d'intérêt général pour une période de 6 mois à 1 an, donc qu'ils peuvent faire auprès d'une commune, d'une association, d'une institution culturelle, d'un hôpital, etc., etc., en France ou à l'étranger, il y avait deux querelles. Celle qui nous intéresse là, c'était la querelle entre ceux qui disaient, pour accepter qu'un jeune vienne faire une mission de service civique, il faut vérifier ses motivations face à l'engagement. Et on comprend très bien le raisonnement en disant, on veut avoir des jeunes qui savent pourquoi ils viennent, qu'ils ne le font pas uniquement parce qu'il y a une petite indemnité ou parce que ça peut les occuper, mais parce qu'ils ont envie de faire quelque chose. Et moi, j'étais farouchement hostile à cette conception. Je disais, le succès viendra si on arrive à prendre des jeunes qui n'ont rien à fiche de l'engagement. Et notre devoir, c'est de faire en sorte qu'à la fin, ils soient convaincus de l'engagement. Parce que si vous faites le premier raisonnement, ceux qui sont déjà convaincus qu'il faut s'engager, je vous fiche mon billet, qui sont tous enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants de gens qui ont été engagés à travers les générations, parce qu'on peut effectivement transmettre l'engagement par l'éducation, et tant mieux. Mais si on ne s'adresse qu'à ceux-là, on n'aura que ceux-là et on aura un système endogame. Et il y a une vraie raison de s'engager pour essayer de diversifier la population. Je dis juste quelque chose à vous tous, mais à la vice-présidente de l'université. Moi, il y a une statistique qui me met toujours froid dans le dos. Dans notre pays qui a égalité à tous les frontons des mairies et des écoles, dans lequel il y a un service, une éducation publique, gratuite, de la maternelle jusqu'au doctorat, où il y a des concours républicains, eh bien, si vous êtes enfant de diplômé de l'enseignement supérieur, si vos parents, l'un de vos deux parents, ont un diplôme de l'enseignement supérieur, vous avez vous-même 3 chances sur 4 d'être à votre tour diplômé de l'enseignement supérieur. Si vos parents ne le sont pas, vous avez 1 chance sur 4. 1 chance sur 4. Si je continue, donc, une inégalité extraordinaire, presque inexplicable. Quoi, on peut l'expliquer, mais elle ne va pas de soi. Par ailleurs, cet état de fait dure depuis des années sans s'améliorer. Si vous rajoutez une deuxième donnée, qui est l'écart d'espérance de vie. Si vous regardez l'écart d'espérance de vie entre une personne diplômée de l'enseignement supérieur et une personne non diplômée de l'enseignement supérieur, l'écart d'espérance de vie est de 8 ans. 8 ans. Alors, ce n'est pas simplement que le diplôme est bon pour la santé, hein, c'est plus compliqué que ça. Mais vous prenez ces deux données-là et vous avez une première explication des difficultés qu'on peut avoir dans une société comme la nôtre. Et vous pouvez avoir immédiatement, s'il vous en manquait, des raisons de vous engager. De se dire qu'effectivement, d'abord on comprend pourquoi une réforme des retraites, c'est pas si simple que cela, parce que si on parle à ceux dont l'espérance de vie est de 88 ans, c'est pas la même chose que de parler à ceux dont l'espérance de vie est de 63 ans quand on leur parle de la retraite à 64 ans. Et vous comprenez qu'effectivement, une société ne peut pas tenir si une partie de la population a conscience que ce qui lui permettra d'accéder à un emploi stable, correctement rémunéré, permettant de se loger, etc., est quand même grandement hors de portée, ou en tout cas pas la chose la plus probable. C'est une chose sur laquelle vous avez 1 chance sur 4. 1 chance sur 4, c'est pas beaucoup. Donc vous y voyez des raisons de vous engager. Si je reviens sur cette idée qu'effectivement, il y a celles et ceux qui s'engagent, j'allais dire naturellement, et qu'il y en a d'autres qui doivent, auxquels il faut convaincre de s'engager. Et que plus on s'engage tôt, plus on a de chances de pouvoir rester engagé longtemps, plus le fait que l'engagement, dans les raisons de l'engagement, avant de venir aux déraisons, il y a une chose qui est une vertu absolument extraordinaire. Toutes les causes que j'ai évoquées tout à l'heure, ou tous les périls que j'ai évoqués, et dont la symétrie sont des belles causes, défendre la démocratie, défendre les droits de l'homme, défendre l'environnement, défendre l'égalité des chances, défendre la culture, défendre la lutte contre l'isolement, l'accompagnement des vulnérables, etc., etc., s'y impliquer a une conséquence, c'est qu'on se sent utile. Et qu'on crée un sentiment qui est un sentiment fondamental dans la société, qui est la reconnaissance. souvent on a parlé d'une société de la connaissance, ce qui est tout à fait un objectif non seulement louable, mais indispensable, et c'est à ça que sert l'éducation, y compris l'enseignement supérieur. Mais il y a aussi besoin d'une société de la reconnaissance. Il y a un besoin de reconnaissance qui est gigantesque. Rarement assouvi, gigantesque. Et il y a un certain nombre de personnes qui n'ont jamais accès à cette reconnaissance. Moi, ça m'a beaucoup frappé en voyant les jeunes qui faisaient leur service civique, et donc parmi eux, beaucoup d'entre eux qui avaient eu des parcours heurtés, ou des parcours ratés, ou des parcours meurtris et meurtrissants. Et quand on leur demandait, et quand on discutait avec eux de ce que leur apportait un service civique, où ils allaient apporter les plateaux repas à des personnes âgées isolées, où ils allaient dans les services d'urgence aider ceux qui arrivaient et qui étaient perdus parce que je suis un peu âgé, je suis tombé du trottoir, les pompiers m'ont conduit au service d'urgence, je suis un peu désorienté, je voudrais prévenir ma fille, mais j'ai perdu son numéro, mon portable n'a plus de batterie, etc. Si vous demandez à l'infirmière de recharger la batterie, de trouver le numéro, d'appeler la fille, etc., elle a autre chose à faire. Si vous ne permettez pas au patient qui est là de pouvoir appeler sa fille, vous créez une angoisse chez lui, une angoisse chez la fille, une catastrophe. Et si vous avez un jeune volontaire en service civique qui dit « mais moi, je suis là pour ça », vous résolvez toute une série de problèmes. Et le jeune en service civique se sent utile. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de ces jeunes, et il y a toujours beaucoup de ces jeunes, dont vous comprenez qu'en ayant fait ces missions entre 16 et 25 ans, le plus souvent vers 18, 19, 20 ans, pour lequel, la première fois que grâce à leur engagement, ils ont entendu un mot magique de la langue française de deux syllabes, qui est le mot « merci ». Et il faut imaginer ce que c'est de ne jamais avoir entendu « merci ». Et il faut imaginer que quand on a entendu « merci » une ou deux fois, ça peut devenir une accoutumance. On peut rechercher le « merci ». Et c'est une quête qui n'est pas du tout problématique. On cherche le « merci », donc on a besoin de se sentir utile, etc. Et de pouvoir avoir cette reconnaissance, qui n'est pas une reconnaissance d'une médaille, ou d'un million gagné, ou d'un titre obtenu, mais qui est juste la reconnaissance des siens, de ses congénères, de dire « j'ai besoin de toi ». Et à l'inverse, le sentiment d'inutilité, qui est pour moi la vraie exclusion, c'est-à-dire que la violence de l'exclusion, c'est quand on dit à des personnes dans la société, soit parce qu'elles n'ont pas de diplôme, soit parce qu'elles n'ont pas de travail, soit parce qu'elles sont trop âgées, soit parce qu'elles sont trop ceci ou pas assez cela, que finalement la société n'a pas besoin d'elle, c'est d'une violence psychologique tout à fait considérable. Le rôle de l'engagement est l'inverse de l'exclusion, c'est-à-dire de faire re-rentrer dans une communauté dont les membres ont besoin les uns des autres. C'est tout à fait laïque, il n'y a rien de ça, mais de pouvoir faire naître cela. Si je continue sur la reconnaissance, puisque je vous dois, à ceux qui ne savaient pas ce qu'était l'Institut de l'engagement, raconter deux minutes l'histoire, et je vais le raconter très précisément. Donc, 2010, une loi permet de créer le service civique et de faire en sorte que des jeunes puissent s'engager. Je disais qu'il y avait eu deux critiques, pour ceux qui suivent, il y avait deux débats. Il y avait eu un premier débat sur est-ce qu'il faut le réserver aux engagés, et le deuxième débat, c'était est-ce qu'il faut le rendre obligatoire ou volontaire. Et il y avait une partie de gens, en général pas très jeunes, qui étaient pour le rendre obligatoire au motif que les jeunes sont tous égoïstes, individualistes, passifs, et quelques autres qualificatifs de cette nature. Et donc, si on ne les obligeait pas, jamais ils ne le feraient. Et ils ont eu tellement raison que quand on a eu le budget pour prendre 20 000 jeunes, on a eu 200 000 candidatures. Et qu'on a attiré parmi ces candidatures des jeunes qui avaient tout raté. Et en allant voir les jeunes qui faisaient leur service civique, et notamment dans un bus de sans-abri, où il y avait un petit jeune qui faisait son service civique dans ce bus de sans-abri, et sa mission était de faire des ateliers d'écriture pour les SDF. Donc dans le bus, il y avait un tableau, et il prenait des livres de poésie, et il s'occupait de lire ou de faire écrire des poèmes à des SDF. Je trouvais ça... Donc, je lui demandais si c'était dur ou pas. Il m'a dit oui, c'est pas si simple. Parce que j'ai en général un groupe de 8 ou 10. Il y en a toujours deux bourrés. Et les autres qui ne le sont pas. Et alors, si je m'occupe des bourrés, les autres ne sont pas contents. Si je ne m'en occupe pas, ça fout le bordel. Et c'était très calme. Et il m'a dit, bon, donc j'ai réfléchi, je m'en occupe un peu, puis je fais ceci et ça, puis ça se passe très bien. J'ai dit, formidable. Et donc, pour faire un atelier d'écriture, vous avez une licence de littérature contemporaine ou... Il m'a dit, non, j'ai raté 3 fois mon CAP. Une fois, j'ai eu des mauvaises notes, une fois, je ne me suis pas réveillé, puis la troisième fois, je n'ai plus ce qu'il avait fait. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ? Ben, il m'a dit, là, quand même, j'ai trouvé ma vocation et je voudrais être éducateur de rue. Il était fait pour être éducateur de rue, bien plus que moi pour être danseur étoile sur une scène du TAP. Il était fait pour être éducateur de rue. Pour être éducateur de rue, il fallait passer un concours avec une épreuve de culture générale. Et j'ai vu une fois, au programme de ce concours, il fallait citer des présidents du Conseil sous la 4e République. Là, devant ce public, je sais que vous sauriez. Il n'y en a pas tant que ça, hein, des présidents du Conseil sous la 4e République. Bref, je me suis dit, avec quelques autres, si on ne fait rien, ce jeune-là, comme beaucoup d'autres, se retrouveront après, comme ils étaient avant. Et donc, ils perdront cette habitude qu'on leur dise merci, ils perdront la reconnaissance, et donc, il faut reconnaître leur engagement. Et avec ça, on s'est dit, on va copier les autres. Que font les autres ? Ils font des concours, ils font des promotions dans des écoles, etc., etc. On va faire la même chose avec nos jeunes du service civique. On va leur faire passer un concours. Mais pas un concours où il faut éliminer les autres, un concours où on peut retenir celles et ceux dont on pense qu'on pourra les aider. C'est-à-dire, j'ai un projet, je veux être éducateur spécialisé, je suis fait pour ça, je ne peux pas passer le concours de culture générale, eh bien, on est allé négocier et puis on a obtenu que soit modifié un arrêté au journal officiel sur les modes d'entrée dans les écoles du travail social, permettant, par rapport aux voies où on passe son concours avec son écrit et son oral, qu'il y ait une voie réservée aux volontaires en service civique ayant réussi le concours de l'Institut de l'engagement. Et le concours, on l'a monté sur projet, motivation, personnalité. On posait des questions qui permettent de contourner les problèmes de barrières. Alors c'était assez amusant parce que dans les questions, il y avait quels sont... les personnes que vous admirez le plus. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils répondent, Gandhi, Badinter, puis qu'ils expliquent pourquoi ils expliquaient ces grandes figures. Et souvent, ils écrivaient, ils disaient, la personne que j'admire le plus, c'est ma mère. Elle a beaucoup travaillé, elle m'a élevé, et faisait des tas d'efforts, et etc. C'est mon papa qui a fait ceci et ça, qui se levait très tôt. Et je me disais, mais ils sont quand même niais. J'étais hyper déçu. Et puis je me suis aperçu que je venais de publier un livre qui s'appelait « L'année d'être perdu », qui était un livre que j'avais écrit pour expliquer que mon père était la personne que j'admirais le plus. Je me suis dit, mais en fait, ils sont aussi niais que moi. Bon, je vais essayer de ne pas me considérer comme niais, et je me suis dit, mais en fait, c'est très amusant. J'étais moi-même déformé en considérant que quand moi, je parlais de mon père, c'était extraordinairement intellectuel, et quand eux en parlaient, c'était bêta. Et tout ça pour vous dire que l'engagement, c'est aussi essayer de s'adapter, de comprendre ce que peut être le besoin de l'autre. Et bref, on a monté ce concours, on reçoit 700 jeunes par an, on en accompagne 1100 en plus chaque année, et on a fait ouvrir les portes de Sciences Po, d'HEC, des écoles de travail social et de beaucoup d'établissements très sélectifs qui ont reconnu l'équivalence de ce concours comme l'équivalence de leur admissibilité et qui font qu'ensuite le taux de réussite est de 94%. On n'y est pour rien, c'est pas nous qui rendons les jeunes intelligents, ils le sont déjà, c'est juste qu'on a considéré que notre engagement, c'était qu'il pouvait y avoir un mode de sélection qui ne repose pas uniquement sur les mêmes 10% de zones du cerveau, mais qu'on pouvait s'ouvrir sur quelques autres zones du cerveau, celles où peut se trouver l'inventivité, l'innovation, l'empathie. Petit moment, un moment sur l'inventivité. La phrase la plus profonde que j'ai entendue sur le système scolaire, c'était de la part d'un syndicaliste sud à la PHP lors d'un une instance, qui m'a dit « Le problème du système scolaire ou de l'école en France, c'est qu'on sanctionne les trous de mémoire, mais jamais les trous d'imagination. » Et je trouve que c'est quelqu'un qui aimait le service public et l'école. Je trouve que ça dit beaucoup, là aussi, sur une raison de s'engager pour faire en sorte qu'on puisse tout à fait sanctionner les trous de mémoire éventuellement, ou en tout cas encourager la mémoire, mais également encourager l'imagination qui permet d'avoir envie de s'engager. Si j'en reviens à la raison ou la déraison de l'engagement, et si j'en reviens à ce risque qui surplombe tous les autres, le risque climatique, c'est effectivement pour ça que j'ai pris ça comme thème de la conférence, parce que comme je le faisais de manière tout à fait caricaturale en vous demandant de choisir entre Trump et Greta, on vit dans une période où ceux qu'on considère comme raisonnables, c'est-à-dire qui perpétuent un modèle économique, un certain modèle de décision, un modèle d'organisation de la plupart des activités humaines, le commerce, le transport, etc., sont considérés comme raisonnables. Et on pense que les autres, c'est des aspergeurs de soupe dans les musées, voire des éco-terroristes. Un petit mot sur éco-terroriste. Je le prononce exprès, parce que c'est un des mots qui me choque le plus dans le vocabulaire français. Vous avez vu que j'ai des mots que j'aime. J'aime merci. J'aime pas éco-terroriste. On est le 15 novembre aujourd'hui. Moi, je me souviens du 13 novembre 2015, où j'étais directeur des hôpitaux de Paris, et où on a été confronté et on a reçu les victimes du terrorisme qui avaient survécu. Et j'ai vu un engagement extraordinaire des chirurgiens. Une petite parenthèse. Y a-t-il des chirurgiens dans la salle ? Il n'y a pas de chirurgiens dans la salle. Donc, je peux dire du mal des chirurgiens. Les chirurgiens ont une réputation non usurpée d'être jaloux les uns les autres. Ce n'est pas un métier coopératif. Donc, quand vous croisez un chirurgien, en général, il va vous dire du mal d'un autre chirurgien. Et effectivement, ils se disputaient beaucoup. Pendant la nuit du 13 au 14 novembre, les chirurgiens venaient donner appui aux autres en leur apportant leur boîte d'instruments en disant « Ah, je me suis dit que tu allais avoir des difficultés pour avoir le temps de stériliser tes instruments entre deux patients. Je suis venu avec mes boîtes d'instruments personnelles pour pouvoir t'aider. » La crise crée la solidarité. Bref, on a vu des gens s'engager face à un vrai terrorisme. Et je trouve que les mots ont un sens. et de pouvoir accoler le mot terrorisme à de l'activisme pour le bien commun, hein, pose un problème dans la société. Donc vous avez une raison de vous engager aussi pour éviter cette confusion des termes. Mais si j'évoque cette raison, c'est effectivement que comment peut-on faire pour que la raison change de camp ? Pour éviter que l'engagement soit juste troublion ou que soit pas pris au sérieux et surtout soit inefficace. Comment est-ce qu'on peut aider la transgression à pouvoir avoir un impact et pas simplement à être spectaculaire ? Et c'est des questions qui peuvent être taraudantes, c'est-à-dire dans le moment où on approche du point de bascule que le GIEC identifie comme étant ce moment où tout échappe et qui est très proche de nous. C'est-à-dire que avec quelques degrés de réchauffement, le niveau de la mer monte de 6 mètres. Bon, on a l'impression que 6 mètres... Hein. 6 mètres d'élévation du niveau de la mer, ça veut dire qu'il y a plus d'un milliard d'êtres humains qui se retrouvent ne plus pouvoir vivre là où ils habitent. C'est la première chose. 1 milliard. Vous connaissez beaucoup de... On parlait des grandes catastrophes du monde. Il n'y a aucune catastrophe dans les... Mais ça veut dire qu'au XXIe siècle, d'ici 2100, il est possible de remettre en cause les conditions de vie d'un milliard de personnes. Donc c'est des catastrophes gigantesques. Et ceci sans emballement de l'Antarctique qui fond un peu plus vite et qui provoque des changements des courants et qui provoque ceci, etc. etc., etc. En Europe... En 30 ans, vous avez 30% de la masse des insectes qui a disparu. Pas en 3000 ans ou en 30 000 ans ou en 3 millions d'années. Pas 3% des insectes qu'il faut aller chercher. 30% de la masse des insectes. Donc vous avez une série de transformations considérables qui peuvent remettre en cause... Alors, peut-être pas comme les dinosaures, on ne va peut-être pas disparaître en une seconde, mais remettre en cause la possibilité que la Terre puisse accueillir les humains dans les conditions dans lesquelles elle les a accueillis au cours des dernières dizaines de milliers d'années. Et donc la question de où est la raison et où est la déraison se pose de manière très aiguë. Je vais vous donner un exemple de déraison. La Saint-Valentin. La Saint-Valentin, on a réussi à nous convaincre que pour prouver son amour, il fallait offrir un bouquet de fleurs. La Saint-Valentin tombe le 14 février. Vous avez beaucoup de fleurs dans vos jardins le 14 février, j'imagine. Donc vous avez le choix entre offrir, prouver votre amour avec des fleurs du Kenya, 500 grammes de CO2. Mais ce n'est pas la majorité. La plupart d'entre vous, si vous offrez un bouquet de fleurs à votre bien-aimé, vous prendrez un bouquet de fleurs coupé, élevé en serre aux Pays-Bas. 2,4 tonnes de carbone, le bouquet. La Saint-Valentin est en réalité un crime contre la planète. Alors, j'ai une solution. Offrez un poème. Vous allez consommer un tout petit peu de glucose dans votre tête, etc. Peut-être quelques grammes de CO2, mais pas beaucoup plus. Alors pourquoi ça paraît anecdotique ? Mais ça débouche sur deux choses. C'est un, ça permet de prendre conscience que ce qui peut faire retarder le turning point ou éventuellement l'éviter, ce point de bascule où tout nous échappe, ne sont pas des sacrifices absolument gigantesques. Les plus vieux d'entre nous savent qu'on savait déclarer notre amour avant qu'on décide que la Saint-Valentin était un truc qu'on fête. J'ai jamais entendu parler de la Saint-Valentin jusqu'à ce que je vois les fleuristes autour de moi en parler. Et j'ai jamais offert de bouquet à ma femme pour la Saint-Valentin, ça ne traverserait pas l'idée. Je pense qu'on peut renoncer à la Saint-Valentin sans trop de sacrifices et sans faire diminuer l'amour. En chagrinant les fleuristes, vous avez raison. Donc vous avez deux questions derrière. C'est un, quelle compensation on peut donner aux fleuristes ? De la même façon que quelle compensation on peut donner aux buralistes pour vendre autre chose que des cigarettes ? Tiens, un mot sur les cigarettes. Juste pour vous expliquer comment l'engagement d'une personne peut avoir un impact. Alors vous allez voir, je vais partir de la cigarette. Il y avait quelqu'un, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, Claude Gaud, c'est un nom qui vous dit quelque chose ? Claude Gaud était un grand professeur de santé publique qui a été à l'origine des lois Évin sur le tabac. Mais il ne s'est pas arrêté là. Claude Gaud, c'était un professeur de santé publique qui était en même temps médecin légiste et qui avait passé son temps à faire des autopsies sur des accidentés de la route. Et ça le rendrait malade. Et il trouvait ça pas normal qu'il y ait 10 000 morts par an sur les routes. Et un jour, il a fait tout seul une petite campagne très simple. Il a écrit à tous les candidats à l'élection présidentielle. C'était en fin 1994, au siècle dernier, en leur disant, monsieur ou madame le candidat ou la candidate, est-ce que vous allez continuer à faire l'amnistie sur les PV routiers si vous êtes élu, qui peuvent provoquer un nombre de morts considérable ? Les candidats, il y en avait la plupart qui pensaient qu'ils ne seraient jamais élus, et donc on dit oui. Et le miracle, c'est que même ceux qui étaient susceptibles d'élus ont dit oui, je suis d'accord pour renoncer à l'amnistie. Dont Chirac. Et donc, quand il était élu, Gaud est remonté en disant, ben voilà, vous avez été élu et vous avez signé cela. Et pour la première fois en 1995, il n'y a pas eu d'amnistie des PV. Et il n'y a pas eu le rebond en mort. Et là, certains se sont dit, mais après tout, peut-être qu'on peut faire des choses sur quelque chose qu'on pensait être inéluctable. Et c'est comme ça que sont nés les radars et le permis à point. Et c'est comme ça qu'on est passé de 10 000 morts sur les routes à entre 3 et 4 000 morts. Et par ailleurs, souvent des morts jeunes, donc c'est beaucoup d'années de vie qui ont été sauvées. Ça, c'est un engagement d'une vie, d'une poignée de personnes, avec un impact sur le cours des choses. Pour dire que l'engagement, ce n'est pas d'attendre qu'on soit 2 milliards pour pouvoir agir. On peut agir à quelques-uns. Ça suppose aussi d'avoir un allié. Il y a un bon allié pour l'engagement, qui est la justice. Puisque l'engagement pousse à aller bousculer l'ordre établi, l'une des manières de faire avancer les choses, c'est de faire avancer le droit. Ce qui est une manière, si on considère que le droit ne protège plus, il faut faire bouger le droit pour faire en sorte qu'on reste dans la légalité tout en agissant. Ceux qui ont provoqué ce qu'on appelle l'affaire du siècle, qui sont allés attaquer l'inaction de l'État, sont cassés les dents quelquefois, puis à un moment, ont réussi, à tel point que l'institution dans laquelle je sers, qui est le Conseil d'État, a condamné l'État à des dizaines de millions d'euros d'amende pour ne pas avoir respecté la loi qu'il avait lui-même établie. Ça vous rappelle peut-être quelque chose sur l'actualité, de contester les effets d'une loi qu'on a défendue
en ne voulant pas qu'elle s'applique à soi-même. C'est des choses qui arrivent. C'est extrêmement important. Parce que si je reprends mon petit tropisme du droit, la caractéristique du droit, c'est qu'il a la faculté magnifique d'échapper à ceux qui l'ont conçu. Le droit vous permet d'échapper à vos mauvaises passions. Et donc, vous avez voté une loi, et bien ensuite, elle s'applique, même si elle s'applique contre vous. Et c'est en ça que c'est très, très beau. Et par ailleurs, vous avez établi l'indépendance de la justice, et donc l'indépendance de la justice lui permet de faire évoluer les choses et d'avoir un regard critique sur l'action publique et privée, d'une manière qui permet de faire avancer les choses. Donc, il y a un engagement majeur par les temps qui courent de permettre que l'évolution juridique, qui sera peut-être celle qui permettra la reconnaissance du droit d'agir des fleuves ou de la nature pour avoir sa propre protection, à tel point qu'aujourd'hui, on le sait peu, mais le Conseil constitutionnel, qui n'est pas un endroit d'agité révolutionnaire excité, a été conduit à reconnaître, à travers la Charte de l'environnement, que la protection des générations futures faisait partie des principes à valeur constitutionnelle. Et donc pouvait déclarer anticonstitutionnelle une loi si elle ne prenait pas suffisamment en compte la protection des générations futures. Et donc ça ouvre le tiroir qui permet de faire en sorte que la contestation de choses qui sont pourtant bien établies par la loi et par le système économique peuvent aller être combattues pour cela. Et c'est là où on peut réconcilier la déraison et la raison. Et je terminerai là-dessus. C'est-à-dire quand vous avez un grain de folie qui vous conduit à contester ou avoir envie de vous battre pour quelque chose que tous les autres admettent, et que vous faites en sorte que votre combat puisse prendre une forme efficace parce que vous avez pu influer soit sur les comportements, soit sur la loi, soit sur la réalisation d'institutions ou d'objets, ou etc., de telle sorte que vous puissiez effectivement influer sur le cours des choses. Pour ça, il faut un peu de ténacité et je vous conseille d'avoir à vos côtés une citation de Gandhi, que j'aime beaucoup, sa citation, et qui dit « Au début, ils vous ignorent. Ensuite, ils se moquent de vous. Ensuite, ils vous combattent. Et à la fin, vous gagnez. » Merci de votre attention. Et j'espère être pacifiquement bombardé de questions.
Merci pour cette introduction. Je voudrais que vous puissiez peut-être nous expliciter davantage le rapport qu'entretient l'engagement et le pouvoir.
Est-ce que vous pouvez préciser votre question ?
L'engagement peut conduire à avoir du pouvoir sur les gens, sur les choses, sur plein de choses.
Et donc, est-ce que le pouvoir est dangereux, c'est ça ?
Je n'ai pas dit ça. Je dis quel rapport y a-t-il entre l'engagement et le pouvoir ? C'est-à-dire que tous ceux qui s'engagent ont-ils un moteur
D'accord.
qui les conduise à rechercher le pouvoir ?
D'accord.
Sur les choses, sur les personnes, sur autre chose.
Alors, je réponds tout de suite. Je pense que l'engagement est un moteur qui conduit à avoir envie de pouvoir agir, mais pas d'accéder au pouvoir au sens traditionnel du terme. Ça pose des tas de questions par ailleurs, parce que... en tout cas, oui, on peut être extraordinairement engagé et avoir envie de se battre pour des causes et de ne souhaiter en contrepartie ou en récompense... ni décoration, ni levier de pouvoir, ni bureau, ni voiture de fonction, ni rien de tout cela. C'est le cas de la majorité des personnes engagées. En général, elles veulent entendre ce mot merci ou voir le fruit de leur utilité. Mais l'engagement est fait d'un fort désintéressement. Ensuite, la question qui peut se poser, c'est les conditions de réussite de cet engagement. Ils peuvent passer par l'incarnation, par la médiatisation, par un certain nombre de choses qui ont des effets bénéfiques et des effets dangereux. Et donc, le vrai engagement est un engagement dans lequel on ne perd pas le sens critique et dans lequel on n'est pas aveuglé par la beauté de son propre engagement, par la noblesse de son propre comportement. Ça, c'est terrifiant. Et donc, le vrai engagement est un engagement qui doit être ancré dans des pratiques démocratiques. Et je le dirais d'autant plus quand cet engagement vient bousculer. S'il vient bousculer et bousculer l'ordre établi, vous n'avez pas le droit vous-même de vous arroger comme ayant le droit d'agir au nom d'un autre ordre que vous auriez vous-même établi contre celui qui a été établi par la démocratie. En revanche, si vous le faites dans un cadre démocratique, collégial, etc., vous pouvez considérer que vous avez un engagement, si je puis dire, contrôlé par autrui, contrôlé, etc. Et un engagement devient dangereux s'il devient l'affaire d'une personne, d'une secte, d'une propriété, etc., etc. Donc c'est plutôt cela que la question du pouvoir lui-même. À mes yeux.
Bonjour et merci. Alors, vous avez évoqué au début de votre show, non, mais c'était à cause de la guest star. C'est un show qui fait chaud au cœur, donc on ne va pas s'en priver. Donc, vous avez évoqué le fait que dans l'engagement, on est contre le cours naturel des choses. Alors moi, cette notion de cours naturel des choses, je ne la comprends pas. Enfin, j'ai envie de dire non. C'est pas le cours naturel des choses. C'est des choix politiques, etc., qui font que les choses sont ce qu'elles sont. Il n'y a pas que le cours naturel des choses, non ?
Bonne question. J'ai l'impression de passer mon oral de philo du bac. Et donc, je peux peut-être dire des bêtises. Alors, d'abord, les choix politiques, c'est nous. L'État, c'est vous. Hein. N'oubliez jamais ça. Je fais une petite parenthèse là-dessus, non pas pour fuir la question, mais je pense qu'une des choses majeures dont on a oublié de se rendre compte, c'est qu'effectivement, on est responsable de beaucoup de choses. Beaucoup des solutions aux problèmes que nous vivons dépendent de nos propres comportements. Je ne vais pas revenir sur mon bouquet de fleurs, mais on ne peut pas à la fois manger des fraises en hiver et considérer que le réchauffement climatique est un problème. Même si, pardon de faire des digressions, mais j'adore faire des digressions, même s'il est très intéressant de regarder ce qui explique le climato-scepticisme. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être climato-sceptique ou penser qu'effectivement, il y a un vrai risque et que l'action est légitime ? L'OCDE a fait une grande enquête dans 20 pays sur des dizaines de milliers de personnes et a vu que ce qui différenciait les uns les autres, la probabilité d'être climato-sceptique était beaucoup plus élevée si on habitait dans un endroit non desservi par les transports en commun. C'est très intéressant. Et donc, si vous habitez dans un endroit isolé, vous avez l'impression que les gens vous racontent que le climat se réchauffe et prennent des trucs pour vous emmerder et pour vous laisser isolé. Si vous avez un bus ou un métro en bas de chez vous, vous vous dites après tout c'est vrai et il faut faire attention et ça ne va pas me poser de problème. Et ce qu'on peut en inférer, c'est qu'effectivement, c'est utile de comprendre ce qui explique les gens avant de les juger, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une action possible. C'est-à-dire que organiser le service public des transports ou réfléchir au transport et à la mobilité a un impact sur la manière dont on pourra lutter contre ça. Mais si j'en reviens au cours naturel des choses, ce que je voulais dire dans le cours naturel des choses, c'est qu'effectivement, par opposition à la rupture ou au changement de direction qu'il peut... Si on ne fait rien, de la même manière qu'on vous explique que les déficits vont augmenter, si on ne fait rien, ça ne sera pas 1,5, ça sera 4, ça sera 4,5. Voilà. Si nous continuons toutes choses égales par ailleurs, nous aurons quelques lendemains qui déchantent. Ensuite, on demandera à la lauréate de l'Institut de l'engagement de vous expliquer l'Institut de l'engagement mieux que je l'ai fait, si elle veut bien.
Bonsoir, merci pour cette heure intéressante. Vous parlez, enfin, la définition que vous donnez de l'engagement, pour moi, c'est de l'engagement, ce qu'on appelle l'engagement interne. C'est-à-dire, je suis mue par des valeurs, par des intérêts personnels qui m'amènent à aller vers. Et en vous écoutant, je me suis dit que finalement, on n'est pas tous mus par ces valeurs et pas par les mêmes valeurs nécessairement. Et pourtant, on peut changer les gens. On réussit parfois, grâce à des campagnes, etc., à changer un petit peu le cours des choses. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est: est-ce que vous pensez qu'on peut éventuellement envisager un lien entre cet engagement interne et un engagement que je nommerais plutôt externe, c'est-à-dire qui est impulsé par le contexte, par l'environnement dont les gens font partie? Mais cet engagement externe, vous parliez à un moment donné du permis à points. C'est pour moi une forme d'engagement externe. C'est-à-dire, si je ne respecte pas la loi, je suis puni. Si je la respecte, ben, je ne serai pas puni, en fait. Il n'y a pas de récompense. Si je conduis bien, si je respecte les règles, je ne serai pas récompensé, mais en tout cas, je ne serai pas puni. Et est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer finalement un lien entre ces engagements internes, finalement, vis-à-vis de lois, de valeurs, etc., et amener les gens à s'engager de façon externe, mais que ces engagements externes deviennent finalement, au bout d'un moment, internalisés davantage?
Alors, je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais je crois, et je vais y répondre par quelque chose qui est tout à fait fondamental. On est souvent sommé de choisir entre disant: est-ce que résoudre ce problème, c'est à l'État de le faire, ou est-ce que c'est à nous? Et à de trouver culpabilisant quand on se tourne vers les individus, plutôt que dire: mais ça, l'État devrait le faire. Moi, je fais partie de ceux qui ne savent pas distinguer l'un à l'autre. J'avais cette boutade tout à l'heure: l'État, c'est vous ou c'est nous. Mais on est à la fois, si je prends la solidarité, elle a besoin des systèmes de redistribution que seul l'État peut faire. C'est lui qui fait que les bien portants peuvent cotiser pour les malades, les actifs pour les personnes âgées, l'ensemble de la population pour les allocations familiales, etc., etc. Et ça, seul l'État peut prélever l'impôt, redistribuer, définir les règles, etc., etc. Ceci ne fait pas l'ensemble de la solidarité. Si vous avez une solidarité redistributive parfaite, vous ne luttez pas contre l'isolement, vous n'allez pas empêcher toutes les vulnérabilités et vous n'allez pas faire en sorte que chacun se sent intégré ou inclus dans une communauté. Et ça, on ne va pas demander à l'État de le faire. Donc ça, ça fait partie des solidarités qui tiennent aux engagements individuels. Quand je dis individuels, c'est hors État, ça peut être des engagements de grandes associations, ça peut être des engagements de petites associations, ça peut être des engagements de voisins, ça peut être des engagements... Et la question, c'est comment éviter qu'une solidarité chasse l'une? C'est-à-dire que l'État prenne prétexte que les solidarités fonctionnent bien pour dire « je me retire », ou que les individus disent « ça serait à l'État de le faire, je ne vois pas pourquoi, déjà je paye des impôts et je ne vois pas pourquoi je m'engagerais ». Et donc je cultive, alors moi c'est ce que j'ai cultivé dans ma vie en ayant un engagement au service de l'État et un engagement associatif en parallèle, parce que je pense que les deux sont forcément complémentaires. Et par ailleurs, on a un impact sur les deux dépensent de nous, parce qu'effectivement, le fait qu'il puisse y avoir des normes, dépend de notre acceptabilité des normes ou de ce qu'on désigne pour aller voter ces normes. Et que il y a deux choses de porosité entre les deux. D'abord, quand vous regardez les grandes réformes sociales de ces dernières années, elles sont nées d'initiatives de la société civile. La couverture maladie universelle, vient de ce que Médecins du Monde décide de répondre aux besoins de ceux qui n'ont pas d'assurance maladie en France et pas simplement au Biafra, et vient ouvrir des consultations gratuites, puis met à jour le fait qu'on peut vivre dans ce pays en ayant zéro assurance maladie, que ça pose un problème, alors qu'on prétend que l'assurance maladie universelle est conduite à mettre en place la couverture maladie universelle. Beaucoup de grands progrès sociaux sont nés de la société civile. Le service civique est né d'ailleurs d'associations qui ont commencé à faire du service civil à un moment où il n'y avait pas de cadre juridique pour le faire, en essayant de bricoler quelque chose. Et les normes, pour être acceptées, ces normes qui nous contraignent, je veux dire, la contrainte marche quand il y a une certaine adhésion à la norme, y compris l'acceptation que je sois sanctionné de ne pas avoir accepté une norme. Mais la norme doit être considérée comme juste, et pour être considérée comme juste, elle doit être ancrée quelque part. Une norme qui vient prendre de face et de plein fouet et de grand vent l'ensemble de la société conduit à des mouvements de rejet de normes qui peuvent conduire d'ailleurs à le populisme, qui est la manière de dire qu'il ne doit pas y avoir de contraintes et qu'on peut tout résoudre sans, en faisant fi des contraintes parce qu'elles n'existent pas.
Bonsoir, moi j'ai assisté à ces 4 journées de réflexion sur l'engagement, un sursaut de dignité et donc aussi sur le désengagement. Comment se fait-il qu'il y ait autant de personnes qui soient dans le déni, qui refusent d'agir, etc. Et moi, j'aimerais que ces 4 journées des rencontres Michel Foucault se concluent, parce que j'étais tout à l'heure très sensible à ce que vous avez dit sur la qualification d'éco-terrorisme. Et je trouverais intéressant que l'Université de Poitiers, qui organise ces 4 journées de rencontres Michel Foucault, écrivent à l'État français pour demander la libération de Paul Watson. Ça me semblerait voilà, une action concrète, vivante, et que le maximum de Poitevin signe. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 jours? Quelle en a été la conclusion? La conclusion, c'est que cet homme de 73 ans n'a pas sa place en prison. Merci.
Alors, je ne suis pas à l'université, mais si vous le faites et que vous voulez que l'Institut de l'engagement se joigne, j'y se joindra, je pense. Vous voulez répondre?
Bonsoir. Donc, alors, merci pour votre propos, auquel je souscris tout à fait, mais sur l'engagement, j'aurais deux précisions ou deux remarques, plutôt ou deux questions. La première, c'est que vous laissez supposer qu'il n'y a que des engagements qui seraient des engagements positifs. Alors, comme vous avez évoqué, par exemple, les complotistes, il y a aussi des engagements qui peuvent être parfois donc l'aventure de toute une vie, mais qui ne sont pas forcément des engagements positifs. Donc, on ne peut pas sacraliser à ce moment-là peut-être toutes les formes d'engagement. Et puis, deuxième question, il y a des personnes qui sont absolument admirables, qui ont un engagement perpétuel, si je peux dire, tout au long de leur vie. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont des engagements plus ponctuels. Pendant un septennat, par exemple, bon, ils participent à telle association, et puis après ça, ils se mettent en retrait. Et donc, il y a aussi dans une temporalité de l'engagement personnel qui peut tenir compte aussi parfois des conditions de vie ou d'autres situations.
Alors, oui, sur les deux points. Alors, d'abord, effectivement, vous avez tout à fait raison sur les engagements négatifs, les endoctrinements, et donc ce qui était sous-entendu, mais quand j'ai dit que notre champ serait ce qui fait qu'on donne un peu de soi-même pour une cause qui nous dépasse, j'aurais dû rajouter bonne cause, mais c'était implicite. Mais par ailleurs, c'est un vrai sujet, parce que la capacité de pouvoir entraîner sur... en fait, d'aller flatter les bons mauvais instincts, ce qui est effectivement d'aller réveiller la violence, l'égoïsme, l'intolérance, etc., etc., invraisemblablement accéléré par... Moi, j'ai mis longtemps à comprendre l'effet des réseaux sociaux et aller regarder ce qu'il y avait derrière les algorithmes et comment effectivement ça peut avoir un effet majeur sur les comportements et sur la vision du monde. On a parfois l'impression de lutter à armes extrêmement inégales, quoi. L'engagement n'est pas un sacerdoce dans lequel on doit s'engager à 16 ans et demi en disant je passerai tous mes week-ends jusqu'à l'âge de 86 ans et demi. L'engagement commence par être un état d'esprit que lui on peut faire même quand on est très occupé et puis auquel on peut consacrer du temps ou de l'énergie à certaines périodes plus qu'à d'autres, bien évidemment. En revanche, ce qui m'a toujours frappé, c'est que l'engagement n'est pas l'apanage de ceux qui sont censés avoir le temps de le faire. C'est-à-dire que on peut être engagé, y compris passer un peu de temps, même quand on est suroccupé. Le fait de prendre prétexte de sa suroccupation, alors on va trouver des cas particuliers. Je ne me suis pas beaucoup occupé de l'Institut de l'engagement pendant les 3 ans du Covid, quand j'étais à la tête de l'AP, mais ça me faisait vivre quand même de savoir que ça existait. Et on avait fait une promotion des engagés du Covid, d'ailleurs, spéciale pour l'engagement qui est né de cela. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, l'engagement est d'abord un état d'esprit avant d'être quelque chose qu'on comptabilise en heures.
Oui, bonjour, merci beaucoup. Moi, je me posais la question de l'engagement et des conditions de l'engagement lorsque des conditions vraiment objectives et subjectives ou internes et externes, lorsque l'État et ses représentants se mettent au service d'intérêts privés. Comment faire lorsque tous les moyens d'expression légaux ont été utilisés pour défendre une cause et que les revendications, elles restent sans réponse, ou même qu'elles sont réprimées. On a des exemples quand même de répression, des mobilisations sociales, de mobilisations professionnelles, dans différents secteurs, à l'hôpital peut-être que vous connaissez bien cette question, il me semble, mais que ce soit les mobilisations écologistes, et à Poitiers, je pense que nous sommes tous marqués par une lutte régionale et qui a tendance à s'étendre, puisque la question des mégabassines s'étend également, enfin les projets de construction. Donc voilà, comment on fait en fait dans l'engagement quand ces possibilités d'engagement sont réprimées, quand on a peur d'aller en manifestation et que en fait on trouve pas les voies. Alors elles se trouvent finalement, mais elles restent quand même stigmatisées. Donc ces raisons objectives, ces conditions objectives de l'engagement, comment on fait quand elles sont pas réunies?
Alors, effectivement, y compris dans le livre que j'évoquais sur les qui s'appelle les solastalgiques, j'en dis un mot puis je reviendrai à votre question. La solastalgie, c'est l'angoisse qui empêche de vivre tellement on est angoissé par le sentiment que son environnement ne sera plus celui que l'on a connu, détruit par l'action humaine. Et dans ce livre, des gens tout bien comme il faut se disent, mais face à l'impasse, il n'y a pas d'autre solution que l'action clandestine et illégale. Et se mettent à hacker les systèmes qui émettent du carbone. Donc ils commencent par les gros bateaux de croisière et les mettent en rade, et puis font les 10 plus gros aéroports du monde, les 10 plus grands fabricants de SUV, etc., etc., en s'organisant pour faire. Et en passant des soirées entières à débattre entre eux, en se disant qu'est-ce qui a conduit à ce que je sois me mettre dans une situation d'illégalité, etc. Et cette réflexion sur où sont les limites. Et je trouve que il y a une question derrière ce que vous soulevez, qui est la question de la désobéissance civile, qui est compliquée. Moi, mon travail consiste à faire respecter l'état de droit.
Et pour autant, je pense qu'il y a un espace pour la désobéissance civile. Et je pense qu'on manque de lieux de réflexion, parce que je pense qu'il y a une différence de nature entre effectivement le sabotage et l'action qui peut sortir des clous, mais qui est légitime, et qu'il manque un espace pour permettre de voir ce qui est légitime. De la même manière que quand on regarde la plupart, j'évoquais les progrès sociaux, la plupart des progrès sociaux sont partis d'une anticipation de la loi, si on peut dire. J'ai quand même évoqué l'abbé Pierre, même si je condamne et j'ai le même désarroi de tous ceux qui ont découvert ce qu'on a découvert cet été. Il avait l'habitude, dans son bon côté, quand il faisait des constructions illégales pour les SDF, de dire « je ne viole pas la loi, j'applique la prochaine ». Et je trouve que cette phrase était... Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. La protection des moyens d'action, comme ça a commencé avec les lanceurs d'alerte, etc., et de trouver... quoi, une société ne peut vivre que si elle a des espaces qui permettent la contestation. À condition aussi que cette contestation trouve suffisamment d'espace pour ne pas basculer dans la violence ou dans la remise en cause d'autres principes aussi nobles. Et ça, c'est des sujets de débat qui, encore une fois, ne peuvent pas reposer sur un individu, mais sur des équilibres sociaux. De la même manière que les grands équilibres sociaux doivent être négociés entre les forces sociales, la manière dont on doit pouvoir les contester doit être aussi négociée par les différents acteurs. On ne peut pas s'auto-proclamer celui ou celle qui va bousculer l'ordre établi au détriment des lois, etc., parce qu'on a considéré qu'on avait une cause juste, ce que je disais tout à l'heure sur cet aspect démocratique. Donc il y a beaucoup de progrès qui peuvent être faits dans les deux sens, à la fois dans l'acceptation par les contestataires qu'il doit quand même y avoir un cadre conventionnel à la contestation, et dans les tenants de l'ordre établi pour considérer qu'il doit y avoir un espace pour la contestation.
Bonsoir. Je suis lauréate de l'Institut de l'engagement depuis 2019, donc je suis considérée ancienne lauréate. J'ai donc postulé à l'Institut de l'engagement en 2019 suite à mon service civique. Je me suis engagée suite à ma licence pendant un an où j'ai réfléchi à ce que je voulais faire dans une mairie. J'ai été chargée de démocratie participative. Et je travaillais avec les enfants, en particulier les enfants pour essayer de leur donner la parole, mais également des enfants en situation d'handicap dans les écoles primaires. Alors, ce n'était pas, peut-être que je n'étais pas, comme tu disais Martin, je n'étais peut-être pas qualifiée pour être accompagnante, entre guillemets, aidante, entre guillemets, d'enfants en situation d'handicap, mais c'était quand même quelque chose qu'il fallait faire, et c'était très formateur pour moi également. L'Institut de l'engagement, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui aide à structurer les projets d'avenir des jeunes engagés et qui met en valeur leur engagement pour l'intérêt général. Et on a notamment le droit à un accompagnement individualisé une fois qu'on est admis à l'Institut. Mais c'est également un grand réseau, et c'est d'abord un réseau qui nous permet de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas eu forcément l'occasion de rencontrer. Je sais qu'avec l'Institut de l'engagement, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnalités politiques, mais pas que, des artistes également, des réalisateurs et réalisatrices d'ailleurs, surtout. Je pense que je n'aurais pas eu l'occasion, et c'est aussi l'endroit où j'ai appris, où on nous a dit d'y aller un peu au culot, justement de parler à ces personnes-là, de dire que voilà, on avait notre place et que il fallait y aller, et que de toute façon, si on n'y allait pas, ils n'allaient pas venir nous chercher, quoi. Donc, c'était vraiment ça qu'on a appris. Et quand je disais réseau, c'est pas forcément que des personnalités, c'est aussi des jeunes, justement. C'est surtout un réseau de jeunes qu'on a rencontré et que j'ai rencontré. Et c'est des personnes engagées, c'est des personnes avec qui on a beaucoup échangé. Et même si c'était en 2019, c'est des personnes avec qui on garde des liens et aujourd'hui ça nous permet aussi dans notre vie professionnelle et personnelle d'avancer parce que c'est grâce à eux et à leur inspiration. C'est l'inspiration qu'on a gagnée grâce à ces personnes-là qu'on a fait des projets parce qu'il y a plein de personnes aussi qui ont réalisé des projets en commun. Pour l'histoire un peu personnelle, par exemple, moi, je suis lyonnaise de base, je suis arrivée à Poitiers pour le travail, je travaille à l'université de Poitiers. Et la première chose que j'ai fait, c'était de rencontrer finalement des lauréats, parce qu'il y en a quand même pas mal sur Poitiers, on n'aurait pas dit, mais il y a quand même pas mal de lauréats sur Poitiers, donc le réseau continue. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, merci. Merci.
S'il n'y a pas de dernière question, va remercier
c'est moi qui vous remercie.
Martin Hirsch.
Merci beaucoup.
Et un petit mot pour vous dire que si vous le souhaitez, tout de suite après, j'emmène Martin la dédicace donc au stand que vous avez dans le grand foyer. Voilà, le stand de notre partenaire, la librairie La Belle Aventure. Merci.
Merci.